Bah, ils prendront en cours et puis on leur enverra l'enregistrement. Tu me dis quand ça enregistre, c'est bon? C'est dessus. Ok, alors super, on va commencer la soirée. Désolé du petit timing de décalage. Merci à la technique, c'est pas évident. On essaie de faire le meilleur pour vous servir. Donc voilà, ceux qui sont sur le net, vous bénéficierez de l'enregistrement pour le début et venez nous rejoindre dès que vous pouvez. Bienvenue à tous ce soir, j'espère que vous allez bien. Certains vont super bien, je le vois sur vos têtes, vos visages. Super. On va se lancer dans la soirée. La dernière fois, on avait parlé de quel thème, vous vous souvenez? Le thème. Il faut aimer les gens. Acte 20, 35, ça parle de la libéralité, effectivement. Et ce soir, on va parler du travail. Le travail, c'est pas du tout péjoratif. On va le voir, ça va être une super peut-être découverte pour vous. On va voir des principes, on va voir des choses qui vont être clés et ça va être super bon. Mais avant de commencer la soirée, et c'est comme ça que j'ai envie de vous enflammer ce soir, cette semaine j'ai entendu un témoignage qui m'a vraiment percuté. Le témoignage, il est très court. C'est un chrétien qui allait dans une station essence pour prendre son essence. Et quand il est sorti de sa voiture, le Seigneur, par son esprit, lui a dit, fais le poirier. Et si, si, c'est ça. Et il lui a dit, fais le poirier. Et il était là, mais Seigneur, je vais pas faire. Enfin, il disait, c'est quoi? Enfin, Saint-Esprit, c'est toi vraiment. Enfin, fais le poirier, fais le poirier, fais le poirier. Le poirier, c'est se mettre sur les mains, les pieds en haut et faire une figure de gym, là. Voilà, c'est ça faire le poirier. Donc sur une station essence, ça fait un peu bizarre de faire ça. Mais il avait tellement ça sur son cœur qu'il a fait le poirier en plein milieu de la station. Il l'a fait une fois ou je ne sais pas combien de fois. Et quand au moment d'aller payer sa facture d'essence au guichet, il est rentré dans le magasin et le monsieur il était en train de pleurer, il pleurait. Et puis il me dit, mais bonjour monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous inquiétez. Mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, vous savez, peu de temps après, avant que vous arriviez, il y a un monsieur qui est venu au guichet prendre son, bref, payer son essence. Et puis il me faisait que de me parler de Dieu. Et puis j'ai dit, vous savez, le jour où je vois un mec qui fait le poirier dans ma station, je croirais en Dieu. Et là, il était en pleurs. Dieu l'a touché, c'est merveilleux, mais il l'a touché comme ça. Et j'ai fait, Seigneur, je crois que c'est incroyable. Et Dieu est capable de faire des choses incroyables. Au travers de qui? Au travers de ceux qui sont bouillants pour obéir. Et ce soir, j'ai envie qu'on commence. La soirée, on va prier que le Saint-Esprit puisse nous utiliser parce que ce soir, on va entendre des choses pour que le Seigneur puisse nous amener plus loin. Allez, je vais prier. Merci Seigneur pour cette soirée. Viens par ton esprit, viens nous enflammer encore, viens nous montrer la voie, viens nous parler, viens nous diriger, viens nous convaincre Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, ton esprit est libéré sur chacun d'entre nous. Et vous qui êtes sur le net aussi, recevez la présence du Seigneur et que vraiment il puisse vous faire du bien. Merci Seigneur de nous honorer parce qu'on t'aime au nom de Jésus ce soir. Amen. Ok. Je vous demande votre attention ce soir, c'est pas évident. Tu arriveras un jour à faire le poirier. Alors, le verset, vous l'avez dit tout à l'heure, on va passer assez rapidement, mais quand même de le déclarer, c'est important pour vous, pour moi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez pardon, du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens 3, versets 23 à 24. C'est très important parfois de se le rappeler quand on travaille, quand on est dans l'action, quand on est dans notre travail. Pour qui on le fait? Servez le Seigneur, faites tout pour le Seigneur. Ok, le premier jour, la leçon nous invitait à revenir, donc comme d'habitude, sur les commentaires précédents. Et j'aimerais peut-être vous laisser la parole très rapidement, s'il vous plaît, pour savoir quels étaient les retours que vous aviez, qu'est-ce que ça a eu dans votre cœur la reconnaissance, le fait d'avoir reconnu que d'avoir une attitude juste quand on fait un don, c'était ce qui était le plus important. C'est pas le montant qui est le plus important, c'est l'attitude. Qu'est-ce que ça, quand vous l'avez mieux assimilé, mieux compris, ça a débloqué ou ça a fait dans votre vie? Est-ce que quelqu'un voudrait rapidement partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été central, que vous avez retenu, qui vous a percuté, que vous avez envie de garder et puis de développer encore? C'est fou parce qu'avant vous parliez à fond, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Le plus important, oui, alors prends juste le micro, Gisèle.
Moi, ce qui m'a percuté, c'est la différence qu'il y a entre les païens qui peuvent donner. Mais dans ce cas-là, ça s'appelle la charité. Et quand un chrétien donne en pensant au Seigneur, ça s'appelle un acte d'adoration. Ça m'a percuté, cette différence-là.
Alors, même un chrétien peut donner et faire un acte de charité si son cœur n'est pas forcément bien disposé. Et c'est là où on revient à forcément mettre l'accent sur l'attitude et pas sur le montant. Ben, c'est aussi important. Si vous donnez 100 000 euros et si vous donnez 10 euros, il y a quelque chose qui est derrière le montant aussi. D'accord? On le fait plus. Enfin, voilà. Mais l'attitude passe avant tout au scanner du cœur de Dieu. Effectivement, ça peut être soit de la charité, puis les non-chrétiens font souvent la charité. J'ai déjà vu des gens dans la rue, ils donnent quelque chose, etc., par charité, plus que par acte d'adoration au Seigneur. Et Dieu est vraiment béni quand on l'adore. Tu voulais rajouter quelque chose? Très bien. Mais en tout cas, c'est super. Oui, Aristide?
Pour moi, la reconnaissance, c'est je reçois du Seigneur la grâce, hein, tout ce qu'il m'a donné, tout ça, là. Le fait de donner au. Voilà. Ou bien des personnes, quelle que soit la somme, hein, ce que j'ai. Ça, pour moi, c'est voilà, c'est une reconnaissance de pouvoir donner quoi, ce que j'ai reçu.
Super. Super. Plus vous allez mettre en pratique effectivement le fait que quand vous donnez, vous voyez Jésus-Christ devant vous et vous le donnez pour lui, l'effet d'un don à Jésus a des retours très... vous allez sentir le retour. Un jour ou un autre, vous sentirez le retour. Dieu m'a déjà montré des fois, longtemps après, où tu te souviens, tu as fait ça. Maintenant, regarde, maintenant je te bénis et je te fais du bien, etc. Donc c'est Dieu, Raymond le dit souvent, Dieu est le seul qui ne sait, qui n'oublie jamais de dire merci. Il sait toujours dire merci à un moment ou à un autre. Donc si vous faites des choses pour lui, et faites-le pour lui, en priorité, et vous serez... vous allez vivre des choses impressionnantes. Super, on passe au jour 2, qui commence avec le verset Genèse 2, verset 15. Alors, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, est-ce que, d'après vous, Dieu a instauré le travail avant ou après la chute? C'était effectivement avant. Et c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que souvent on dit, ouah, il y a eu la chute, il y a eu le péché, etc. Et là, Dieu, il a accablé les hommes du travail. Et c'est pas le cas. C'était vraiment une bénédiction. Et c'est là qu'il faut comprendre que le travail. Alors, pour certains, ce mot-là peut être péjoratif, selon l'expérience que vous en avez. Mais dans le cœur de Dieu, on va voir que le travail, c'est une réelle bénédiction pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont envie de connaître les principes. Il a créé des principes autour de ce concept. C'est un concept, le travail. C'est comme le mariage. Hier, j'en parlais. Dieu a inventé le mariage. C'est son concept. Si on veut réussir, il faut connaître ses principes, etc. Donc, pareil pour le travail. On va découvrir, on va décortiquer ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de Dieu. Parce que ce soir, c'est possible. Dans d'autres moments, c'est moins possible, mais ça tombe bien, on est réunis, on va parler de Dieu ce soir. Alors, l'une des facettes de Dieu que j'aime beaucoup, et il nous a laissé sa parole effectivement avec plein de principes, plein de recommandations, plein de préceptes, plein d'avertissements, etc. Mais une chose que on peut voir quand voilà, Dieu a fait tout ça. Mais d'abord, il a été modèle. lui-même, tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il demande, il l'est. Tout ce qu'il dit d'être, il l'est avant. Tout ce qu'il dit de faire, il le fait lui-même. Jésus dira aussi, tout ce que je fais, tout ce que je vois faire mon Père. D'accord ? Donc, avant de nous donner tous ces avertissements, ces préceptes, ces principes, lui-même les met en pratique. Et c'est ça qui est excellent, c'est que c'est une propriété essentielle du Seigneur. C'est que ça ne change pas. C'est, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose et puis à un moment, il s'est ravisé et dit bah, « Bon, je leur ai dit de faire ça et bah, qu'ils ont qu'à continuer, mais à d'autres, je vais dire de faire autrement. » Ça, ce n'est pas possible. Dieu est stable et il est un modèle, il est un exemple. Et vous connaissez la phrase qui dit faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Eh ben Dieu, ça ne marche pas avec lui. Dieu n'en a jamais dit ça. Lui, il dit faites ce que je dis et faites ce que je fais. Parce que c'est en adéquation. Et c'est très important qu'on comprenne ça parce que nous qui sommes invités à lui ressembler, si on dit à quelqu'un il faut que tu sois à l'heure, et si toi-même, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas un exemple. Si tu dis à quelqu'un, si tu veux que ton équipe soit excellente, par exemple, si tu encadres une équipe, tu veux qu'elle soit excellente au top niveau et que toi, tu ne montres pas, tu ne transparais pas l'excellence, les gens qui te suivent ne peuvent pas, ils peuvent être excellents parce que c'est ancré en eux et peut-être que nous, dans notre travail, on peut faire la différence par rapport au monde qui ne connaît pas Dieu, mais c'est plus... plus important que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit être des exemples et montrer avant tout le bon exemple. Et après, bien sûr, on peut imposer, entre guillemets imposer, mais on peut suggérer aux autres de suivre notre exemple. C'est ce que Paul, l'apôtre, a fait. Il a dit, c'était pas de l'orgueil quand il a dit « imitez-moi, soyez mes imitateurs ». Il a vraiment développé le caractère de Christ et il a dit « mais soyez mes imitateurs parce que moi je suis même l'imitateur de Christ ». Donc c'est très important. Et donc, parce que ce soir on parle de travail, Dieu a instauré un appel saint, je vais l'appeler comme ça, un appel saint pour chacun d'entre nous. Et on va en reparler un petit peu plus tard parce que lui-même, c'est un bosseur. Il nous demande de travailler parce que lui-même, il a montré qu'il a travaillé. Lui-même aime le travail et c'est un travailleur excellent. Donc, il peut nous demander d'être des travailleurs excellents. Sinon, ce n'est pas logique. Et c'est ce que j'aime. Peut-être que vous ne le saviez même pas, mais dans toutes les religions principales du monde, pas les sous-religions, etc., si on creuse, etc., mais les religions principales, seul le christianisme a une théologie de travail. C'est incroyable. Vous pouvez creuser, seulement le christianisme a une théologie de travail, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des principes, on peut creuser et on va y trouver quelque chose en rapport avec le travail. Seulement le christianisme. Et pourquoi ? Parce que ça reflète directement celui qui l'a inventé, Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que dans les autres religions, effectivement, ben, le Dieu peut-être qui est mis à l'honneur, ben, n'a pas ça sur le cœur, ou c'est pas son truc. Alors que Dieu, le créateur de l'univers, lui qui a montré comment faire les choses avec excellence, lui-même peut servir d'exemple et nous dire, ben, ok, c'est ce que j'ai inventé et c'est ce que je vais te montrer au travers de mes différents principes qui sont inscrits dans ma parole. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est effectivement que le travail, ça reflète notre âme. Pourquoi ? Parce que Dieu, tout son travail a reflété qui il était. Et c'est ça qui est excellent. Et vous allez voir que c'est très très important de comprendre que le travail, c'est une bénédiction parce que ça va faire ressortir l'état de notre âme. Et on va pas faire de la relation d'aide ce soir, vous inquiétez pas. Mais je crois que c'est très intéressant de découvrir que Dieu l'a instauré pour voir des choses en nous. Parce qu'il veut faire ressortir des choses de nous et ça l'intéresse. Donc Dieu aime tellement ce concept parce que au travers de ce concept, le travail, on voit qui on est. Prends quelqu'un, donne-lui une mission de travail et tu vas commencer à voir comment il réagit, comment il pense, comment il cherche, comment il se met à OK. Hello, hello tout le monde sur le net, vous m'entendez? Super, on a eu un petit problème technique, on est désolé, mais merci de nous rejoindre. On vous souhaite la bienvenue. Vous reprendrez le petit début sur l'enregistrement, mais c'est super si vous pouvez suivre à partir de maintenant. Soyez bénis pour toute la soirée.
Merci.
Super. Oui, donc je disais que le travail va faire refléter, va faire ressortir qui on est. Et par exemple, on sait que Dieu est extraordinaire, mais qu'est-ce qui nous a montré qu'il est extraordinaire? C'est que son travail a prouvé cela. Est-ce que vous saviez que la chenille, par exemple, c'est un exemple tout simple que j'ai une fois trouvé, est-ce que vous saviez que la chenille, dans sa tête, vous saviez qu'elle a 228 muscles, rien que dans sa tête? Ou qu'une fourmi, elle peut porter jusqu'à 60 fois son poids? C'est des choses qui montrent que la création de Dieu est extraordinaire. Ok? Je peux vous en donner tout plein des exemples, mais ce ne serait peut-être pas le thème de la soirée. C'est vraiment, si vous cherchez, vous allez voir que Dieu est extraordinaire. Les choses que Dieu fait ne peuvent pas être autrement qu'extraordinaires. Parce que ça reflète qui il est. Et c'est exactement la même chose pour nous, ça devrait refléter qui on est en lui. Si on passe du temps à observer le travail de Dieu, mais peu importe le domaine, on va découvrir quoi? Des aspects de sa personnalité, des aspects de ses goûts, des aspects de ses capacités, de ses choix, etc. On va le connaître. Et au travers du travail, on va connaître qui on est. On va connaître ceux qui sont à côté de nous. On va connaître Dieu. On va connaître, vous voyez, c'est pour ça que le travail, c'est une notion fondamentale dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on va voir que Dieu veut absolument et donner des talents à chacun. Pourquoi? Pour travailler. Donc c'est valable pour nous, le travail va révéler qui on est, c'est ce que j'ai dit, et ça va montrer extérieurement qui on est, le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? C'est un moyen, en fait, de faire sortir les choses qui sont dedans et de les montrer. C'est important de le faire parce que ça va encourager les autres, ça va toucher les autres. Et vous savez quoi? C'est au travers du travail que Dieu va toucher les autres pour Jésus-Christ. Et c'est ça qui est trop bon. En fait, on cherche parfois des notions, des concepts, on cherche à mettre en place des plans, etc. Mettons-nous au travail, travaillons sur le principe de Dieu, et vous allez voir que ça va toucher les autres, et que quand vous allez dire, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu... J'ai un Seigneur dans ma vie qui m'a tout enseigné, il m'a donné tous ses principes, je les mets en action, et voilà le résultat. Waouh, je vais le connaître. Et puis ça va toucher. En fait, c'est pas difficile, mais ça passe par nous-mêmes. Une transformation de nous-mêmes transformer, pardon, le monde autour de nous. Et donc vous êtes d'accord que l'âme est invisible, on ne la voit pas, mais au travers du travail, elle devient visible. Ok, le travail que Dieu avait confié à Adam et Ève dans le jardin, c'était de le garder et de le cultiver. On l'a vu, c'était le premier verset. Mais maintenant, on va prendre Genèse 3, versets 17 à 19, et il y a un aspect qui est ressorti d'eux. Je le passe assez vite. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maudit maintenant. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait, pardon, de poussière et tu retourneras à la poussière. L'aspect qui en ressort, c'est quoi? C'est la désobéissance. La conséquence que le péché a eue sur le travail, c'est qu'il y a eu une malédiction pour tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Et un jour, je me disais, waouh, dans la Bible, il y a écrit que je dois travailler à la sueur de son front. Et je n'avais pas la révélation que non. Quand on est en Jésus-Christ, cette malédiction, elle est annulée. Elle est complètement annulée. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et si vous voulez creuser, quand Jésus a saigné, son sang est tombé à terre, etc. On peut vraiment aller très très loin dans l'analyse et ça enlève, ça purifie, ça. Il y a des choses comme ça. Si vous voulez creuser, on peut creuser. Mais il faut retenir que pour nous chrétiens, Jésus a tout accompli. Et c'est là où on voit que son sacrifice est vraiment une bénédiction pour nous. On n'a plus besoin de trimer dans notre travail. Par contre, ça n'empêche, certains diront, oui, bah, du coup, je peux rester assis sur mon canapé. Attention, c'est pas du, on ne doit pas dire le contraire de ce que dit le verset non plus, mais alors qu'on n'a plus besoin de piocher à la sueur de notre front, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un appel saint. C'est là où j'en reviens à cette notion. Un appel saint pour chacun d'entre nous. Il a vraiment des plans. Si notre activité professionnelle correspond à notre appel, on va rentrer dans quelque chose qui est tellement bon, tellement bénéfique pour nous. Et c'est ce qu'on devrait rechercher. Et souvent, les gens, vous les entendez, disent il faut travailler pour vivre. Et c'est ce que je disais à un moment. Mais en fait, non. Quand on est en Jésus, c'est. On travaille pour répondre à l'appel de Dieu. C'est comme si Dieu, il décroche le téléphone, il attend qu'on décroche pour nous dire quelle est la prochaine étape. Et vous allez voir, à la fin de la leçon, je vous invite à vraiment rester concentré jusqu'au bout parce que je me réjouis de vous montrer une vidéo qui est percutante et qui va vous parler. Elle va pas être très longue, elle sera de 4 minutes. Et j'en profite pour demander à la technique justement si tu peux leur envoyer par email à tous ceux qui sont en ligne, comme ça eux pourront suivre aussi depuis chez eux. Je te donnerai le feu vert, ce sera super. Ok, mais Dieu effectivement s'intéresse à notre travail. Souvent certaines personnes disent, ouais, moi je fais mon travail, mais le dimanche je vais à l'église et là il faut que je sache qu'est-ce que Dieu attend de moi, etc., que je puisse le servir dans sa maison. Et ça, ce sont des choses très très bonnes. Mais ne croyez-vous pas que là où on passe le plus de temps dans notre vie, c'est au travail. On passe en moyenne, si maintenant on prend une période de 50 ans, allez, avec une durée moyenne hebdomadaire, on passe 100 000 heures au travail, 100 000 heures au travail, dans notre job, ok? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est à ce moment-là que Dieu veut faire des choses. C'est comme ceux qui pensent que la nuit, ça sert à rien, mais non, Dieu peut se servir de notre nuit de sommeil pour nous parler. Et il le fait. Et vous allez en voir un exemple dans la vidéo. Mais oui, considérons notre travail comme le terrain favorable où Dieu va se servir de nous et va vraiment faire des choses qui vont révéler Jésus, si on le laisse faire, si on montre que ses principes sont valables dans notre vie et si on accepte de les mettre en pratique. Imaginez le designer de l'univers. Moi, je l'appelle l'entrepreneur le plus expérimenté qui existe. Ou bien pour certains, ça peut être l'artiste le plus technique, le plus raffiné, celui qui a. Enfin, vous mettez les mots que vous voulez pour désigner Dieu, mais en tout cas. Ce Dieu-là, il a concocté des projets et ces projets sont parfaits. Ils sont voués, ils ne peuvent que réussir. Okay? Ces projets-là, ils vont faire qu'on va être épanoui. Et vous imaginez que nous, en fait, on dit non, Seigneur, moi je préfère faire mon job, ça ce que j'ai choisi, ou bien peut-être, oh, j'aime bien réparer des voitures, on en répare tous les week-ends avec mon père, ben, finalement, tiens, ben ouais, je pourrais être mécano d'ailleurs, pourquoi je chercherais ailleurs? Alors oui. Attention, ce que je dis pas, c'est que mécano, c'est une mauvaise. Tous les métiers sont honorables pour Dieu, vraiment. Il n'y a aucun sous-métier. Parfois, certains disent, bah, ma mère est fleuriste, bah, je serai aussi fleuriste. On se pose même pas la question. Et moi, ce que j'aimerais en fait vous inviter à faire ce soir, c'est vraiment de comprendre que Dieu a un appel à quelque chose vraiment de parfait, de réservé. Il l'a concocté, il l'a travaillé, il a fait tous les détails, tous les pourtours. Il sait exactement où ça commence, quand ça finit. Il en sait, il ne sera pas surpris de rien du tout dans ce projet-là. Et c'est à nous de le choisir. Il nous laisse par contre le choix de dire, je veux ça, Seigneur, montre-moi, vas-y maintenant, révèle-moi ça, montre-moi la first step et tout, et on y va. Et c'est important que oui, on puisse rechercher ce cœur-là, le cœur du Seigneur qui a une volonté et qui a envie de nous conseiller. Il ne va pas nous imposer les choses. Mais Luc, tiens, moi je te conseille plus d'aller dans le bâtiment. Parce que si tu fais mécano, ce sera pas trop. Ce sera bien, tu vas te débrouiller parce que tu es manuel. Mais va plus dans le bâtiment. Ou, ok, va plus dans l'informatique, va plus dans. Peu importe le domaine. En fait, on va gagner du temps, on va gagner de l'énergie et parfois on va même gagner de l'argent parce que les études, ok. Et ça, c'est très important parce que nos enfants, alors, parents, je fais un petit appel aux parents, mais aux futurs parents. Quand nos enfants sont dans cette démarche de rechercher leur voie, parfois c'est difficile, c'est compliqué, on ne sait pas trop comment les orienter, etc. Ben, c'est important de prendre au sérieux cette saison dans leur vie et de les conduire à rechercher le cœur de Dieu. Et de les aider, de dire, ok, on va prier ensemble, on va se mettre avec toi, on va chercher, mais on va prendre ça au sérieux. Ça peut commencer très tôt, parce que parfois on se dit, ouais, plus tard je vais être pompier, plus tard je... J'en connais pas beaucoup qui ont réalisé leur souhait de petit enfant, parce qu'à un moment donné ça change, ok. Mais certains quand même, ça vient très très tôt, donc sachons discerner ça. C'était un petit appel aux parents. Vous avez compris la notion, c'est vraiment important qu'on recherche le cœur de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans le travail, ça peut être dans tous les domaines. Mais on va vraiment gagner du temps. Prochain verset, Exode 20, verset 9. Dans notre leçon, tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Assez court et assez parlant. Prochain verset, 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 12. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Ces versets sont très clairs. Enfin, ils ont, je pense, la capacité d'être clair. Dieu déteste le chômage. Oh, là, j'ai envoyé quelque chose de assez lourd. Mais je vais me préciser. Quand je dis chômage, c'est la mentalité chômage. C'est la mentalité, ah, bah, je peux rester chez moi, je vais recevoir de quoi manger, de quoi nourrir ma famille, de quoi pourvoir à mes besoins. Je n'ai pas besoin de travailler. Oh, bah, c'est cool. Autant en profiter. C'est cette mentalité-là. Ce n'est pas la personne qui est au chômage parce que mince, elle a perdu son job. Et on a quand même des possibilités dans notre pays et je crois que ce serait bête de ne pas en profiter si on est dans la situation. Par contre, d'en profiter alors que Dieu ouvrirait une porte et dire non, finalement, ah, il faudrait que je me lève maintenant pour aller travailler. Oh là, je n'ai vraiment pas envie. Mais il y a la situation. Deuxième cas, tu as une deuxième demande, etc. Là, c'est un problème. Dieu le dénonce, c'est la paresse. Et parfois, ça peut être dans nos vies, on a besoin de déraciner ça, de dire ok, de reconnaître que parfois c'est difficile, parfois on n'a pas trop envie, parfois on est bien dans notre confort, etc. Mais je crois que Dieu déteste voir des gens sans travail. Mais pourquoi? Pourquoi il déteste? La première chose, c'est que payer des gens pour pas qu'ils travaillent, c'est ce que fait voilà, certaines organisations. Alors, ça a été... Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça soutient des personnes, mais quand c'est dans l'abus, voilà, c'est là où c'est difficile. Ça leur enlève leur dignité. On a une dignité, on a quelque chose en nous. C'est un système qui est à double tranchant. Mais pourquoi Dieu le déteste? Parce que ça leur enlève leur dignité. Qui c'est qui nous a donné notre dignité? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous met de la valeur en nous. Mais le fait de le payer pour pas qu'on aille travailler, voilà, ça enlève notre dignité. On voit que certaines personnes, enfin surtout Dieu, voit que certaines personnes sont en train de pourrir. C'est assez dégueu le terme, mais pourrir. Dieu voit les gens en train de pourrir parce que pour lui, le travail, c'est du vital, c'est tellement bon et il veut pas. C'est tellement bon et il a pas. Et il n'en profite pas. Donc Dieu, je crois, sur cette terre, voit certaines personnes en train de pourrir. Un autre truc, c'est, vous imaginez, vous avez prévu plein de choses, vous avez des capacités surnaturelles que vous allez donner à vos enfants, etc. Et eux, ils ne les utilisent pas. Dieu voit que ces dons, ces talents qui distribuent, ils servent finalement à rien. Personne, elle préfère rester chez elle, dormir toute la journée, alors que j'avais donné un don de la parole pour enseigner, et puis ce serait tellement bon qu'elle l'utilise, par exemple. Et on pourrait faire une grande liste, mais le dernier point que j'ai noté, c'est que les gens deviennent dépendants en fait d'un système. Et dépendre de quelque chose ne nous fait pas dépendre d'une autre chose, souvent. Nous devons dépendre de Dieu et pas d'un système. Nous devons dépendre du Saint-Esprit, notre consolateur, notre enseignant, celui qui nous montre l'amour de Dieu, etc. Nous devons dépendre, on le sait, on le comprend, mais amenons les gens qui ne l'ont pas encore compris à le comprendre. C'est ça qui est bon. Et ça, comment on peut le faire? C'est au travers de notre travail. C'est pour ça que le travail, c'est bon. Okay, tout ce que je viens de dire, on peut le contrer. C'est ce que Dieu nous invite à faire. Délier les joues, briser tout ce qu'il y a sur les captifs, briser les chaînes, etc. C'est comme ça qu'on va le faire, au travers de notre travail. Ça va être un instrument que Dieu va pouvoir utiliser. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Ça va sur le net?
Ouais.
Super.
Yes.
Ok, cool. Troisième jour, Genèse 39, versets 2 à 5. Alors, il y a beaucoup de lectures ce soir. Je vais essayer de passer assez rapidement. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Je m'arrête ici. On sait qu'il a été béni, qu'il a eu plein de responsabilités. Exode 35, versets 30 à 35. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a choisi Bessaléel, fils d'Ouri et petit-fils d'Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessaléel connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler des pierres précieuses et les monter, sculpter le bois, etc. etc., etc. » On voit qu'il... Wow, ce gars, il est vraiment... C'est un boss. On voit que le Seigneur l'a aussi accordé de même à Oholiab, un autre gars, etc. Il leur a donné le don d'enseigner ces techniques. J'abrège, je fais un petit résumé du verset. Voilà. Je sauterai le psaume, le verset Exode 36, verset 1 à 2. Vous l'avez lu, ça parle de ces deux hommes qui, justement, ont une mission de construire l'arche, le sanctuaire, etc. pour le Seigneur. Mais on prend Psaume 75, versets 6 à 7. Oui, ça suffit, vos airs supérieurs. Cessez vos discours effrontés. Sachez que la grandeur ne vient ni d'Orient, ni d'Occident, ni encore du désert. Voilà, ça c'est un petit verset pour nous calmer aussi. Ça nous fait du bien de l'entendre. Ok, on voit que dans ces versets, le Seigneur en fait nous donne la réussite à Joseph. C'est pas Joseph qui fait les choses et puis waouh. C'est le Seigneur qui lui donne la réussite. Le Seigneur donne des talents et des dons d'enseigner. C'est Bessaléel et Oholiab. On voit que le Seigneur, alors c'est le verset qu'on a sauté, mais il donne la sagesse et l'intelligence pour savoir quoi faire. On voit que c'est Dieu qui abaisse et qui élève. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est que dans notre culture, les gens se basent sur leurs propres capacités. Et autour de nous, on voit des gens qui essaient de s'en sortir. Encore ce matin, j'étais en train de parler, j'étais là, Seigneur, essaie de m'utiliser pour cette personne, j'ai pas osé. Mais c'est un gars qui fait la tournée des lycées, qui essaie de récupérer tous les ordinateurs, et puis il essaie de s'en sortir, d'avoir un peu d'argent pour vivre de ça. Mais je vois qu'il trime et tout, il fait un boulot sale et puis il porte lourd et puis j'ai mal au cœur quand j'essaie de parler un peu avec lui, etc. Mais on a une bonne discussion et la prochaine fois j'espère pouvoir lui parler de Dieu. Mais non, ça c'est Dieu a pour nous des dons, des talents, des capacités et il ne nous laisse pas, comment dire, sans équipement. Parce qu'il veut, si son concept du travail, il nous le présentait, voilà, dans les grandes lignes, et puis il nous demandait, ok, maintenant, soit vous y croyez pas, débrouillez-vous pour le faire, bah allez-y, quoi, développer, trouver, trimer. Non, 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 il nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir notre destinée. Il nous le donne. Mais c'est à nous déjà de croire que c'est vrai, de croire qu'il le fait, parce que déjà c'est une première barrière, c'est se dire non, mais Dieu ne me dira jamais, ou moi j'ai pas de don, j'ai pas de capacité finalement, etc. Ça c'est la première barrière. Mais ensuite de dire, ok Seigneur, vas-y, révèle-moi, crée des circonstances pour que je vois où me diriger. Okay? Et justement, on devrait faire preuve d'humilité. Parfois, c'est important de fléchir le genou. J'aime bien le faire dans ma chambre et dire, Seigneur, vous savez, quand j'ai construit, pour ceux qui le connaissent, le studio dans un bunker à Strasbourg, je ne savais pas faire beaucoup de choses. J'avais quelques notions, j'ai surtout vu faire. Mais de le faire soi-même, c'est-à-dire peut-être de la peinture, du placo, l'électricité, tout ça, c'est pas pareil de faire soi-même que de voir faire, vous êtes d'accord? Même si on comprend comment la personne fait. Je me mettais souvent à genoux, enfin quasiment chaque fois avant de commencer, je montrais mes mains comme ça, je dis Seigneur, waouh, vas-y, utilise mes mains, bénis mes mains, et je priais pour mes mains, je priais, je priais, et j'aime beaucoup le faire encore aujourd'hui, je prie pour mes mains. Je dis Seigneur, tout ce qu'elle touche, vas-y, fais quelque chose avec, etc. Et voilà, et ça a du résultat, et je suis vraiment trop content. Et quelqu'un un jour m'a dit, mais Luc, t'as des mains en or et tout. Je dis, ah, oh, ben, c'est gentil, merci pour tes encouragements, et ça, sois béni au nom de Jésus, amen. Et puis, en fait, je réalisais même pas que oui, en fait, finalement, ça, entre guillemets, ma prière a marché, parce que j'ai mis tout mon cœur. J'ai voulu que le Seigneur me donne ses capacités et me les a données. Ça va être pareil pour vous. Alors allez-y. Vous avez tous un cœur pour le Seigneur, alors foncez. Et j'aimerais développer un point qui est pas noté dans la leçon. Un point qui est assez essentiel. Et je l'ai découvert et je me suis dit, waouh, ça je vais vous le donner parce que ça m'a fait du bien, ça va vous faire du bien aussi. Est-ce que vous connaissez la différence? D'après, alors bien sûr, on est selon le cœur de Dieu, ok? La différence entre richesse et fortune. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot richesse, la richesse et la fortune? Est-ce que vous avez déjà fait une analyse sur ça? Pas trop. Moi, je n'en avais pas fait non plus, mais j'ai déjà entendu ces mots. Je me suis déjà dit, ouais, les mecs qui sont fortunés, fortunés, ça veut dire peut-être que ça déborde des poches, etc. Quelqu'un qui est riche, bah, ça sort aussi des poches. Bon, ok. Voilà. La fortune, c'est ce qu'on a, d'accord? Et la richesse, c'est ce qu'on... Ok? Une notion de transmission, c'est-à-dire la fortune, on peut peut-être la transmettre, et puis la richesse, c'est ce qu'on acquiert, c'est ça? On peut gagner une richesse, ok? Ok, vas-y, Valentin.
La fortune, c'est quelque chose qu'on voit, que les autres peuvent voir, alors que la richesse, ça peut être quelque chose interne qui n'est pas forcément à la vue de tous.
C'est pas mal aussi ça. Tu veux dire l'amour?
Ou est une richesse.
Effectivement. Alors, vraiment pour parler en termes de, je sais pas si tout le monde voit, et puis c'est pas peut-être pas tout à fait lisible, mais prenez et notez si vous voulez dans vos cahiers 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. On va s'appuyer sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. On est toujours dans le troisième jour, ouais. C'est une petite parenthèse que je fais dans la leçon. Alors, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. C'est Paul qui parle. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour-là sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que les richesses sont matérielles et la fortune est spirituelle. Je dis bien, on parle selon le cœur de Dieu. Je vais appuyer ce que j'ai dit. Les richesses, elles seront consumées. D'après le verset qu'on vient d'entendre, il va y avoir un feu à un moment qui va consumer les choses, mais les richesses, elles seront consumées. Tout ce qui est des richesses, c'est du consommable, c'est du consumable. Elles seront consumées par le feu du jugement. Par contre, la fortune, elle résistera à l'épreuve du feu. Ah, alors c'est quoi cette fortune? Ok. La fortune, elle se traduit, d'après ce que j'ai noté sur mon tableau, en deux choses. La première, j'ai noté ici, c'est le comment faire. Le comment faire, c'est les aptitudes, nos dons, nos talents, nos capacités. Et le deuxième point, c'est le comment être. Et ça, c'est les traits de caractère. C'est ce que Dieu veut qu'on développe, une fortune. La fortune, elle va résister au feu du jugement et c'est ce qui va rester pour l'éternité. C'est ce qui va rester en notre faveur. Attention, ce n'est pas un problème d'avoir des richesses, on va le voir. Les richesses, c'est tous les biens matériels. C'est le avoir. J'ai. Tout ce qui rentre dans le verbe avoir. Oui, il y a de l'argent, il y a des propriétés, etc. Vous pouvez mettre plein d'exemples. Mais comprenez bien qu'il n'est pas nécessaire d'obéir à Dieu pour devenir riche. Vous êtes d'accord que le crime, les jeux d'argent, la malhonnêteté, ça enrichit. Il y a du résultat, il y a du fruit. Mais ce fruit-là va être consumé. Il ne va pas rester. Quand tu auras le jugement, ça ne va pas rester. Par contre, comment on devient fortuné? Pour devenir fortuné, la seule chose à faire, c'est quoi? C'est l'alliance. Mais l'alliance avec qui? Avec le monde? Non, avec Dieu. Et l'alliance, c'est quoi? C'est un contrat, c'est une alliance. Pour ceux qui sont mariés, vous l'avez au doigt. Une alliance avec Dieu, c'est un pacte, c'est un engagement, c'est quelque chose qui est bien profond au fond de nous-mêmes et qui dit, Seigneur, tout est principe, oui, tout est principe, oui, tout est principe, oui. Ok? Et c'est ça. Développer l'amour, développer nos talents, développer la connaissance, développer l'obéissance. Dans ça, il y a le comment faire et il y a le comment être. Quelqu'un qui est honnête, c'est un trait de caractère. Et ça va se manifester par des actes. C'est le comment être qui va devenir du comment faire. Qu'est-ce qui va se produire? Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la fortune, selon l'alliance de Dieu, va produire des richesses. Mais les richesses, elles ne peuvent pas produire de fortune. Ce n'est pas possible. Selon le cœur de Dieu. Ok? La fortune, je répète, la fortune va créer des richesses. Elle peut produire des richesses. Mais les richesses ne peuvent pas produire la fortune. Selon le cœur de Dieu. Et c'est là où je disais que c'est super. Il n'y a pas de problème d'avoir des richesses. Mais ayons la fortune qui produit ces richesses. Et là, on saura que c'est tout notre travail durant cette formation, c'est de devenir des personnes fortunées. Devenons fortunés, sois fortunés. Parce que ça va produire des richesses. Quand tu sais comment faire avec les richesses que tu auras, Dieu va te bénir. quand tu sais comment être avec les richesses que tu auras, Dieu va te bénir aussi. Mais si tu as des richesses sans savoir comment Dieu veut que tu sois, tu risques d'aller dans un mauvais chemin. Tu risques de te perdre, tu risques de vivre des situations qui sont compliquées, difficiles. Tu risques de vivre peut-être un péché ou tu risques de faire des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Inversement, tu as la base, les fondements. D'après le verset, c'est les fondements qui doivent rester d'après le feu du jugement. Après le feu du jugement, pardon. Et les richesses, ce n'est plus un problème. Ça fait du bien de l'entendre. Moi, j'aime bien ça. Parfois, on cherche les richesses. Avoir, avoir, avoir. Waouh, waouh, si j'ai, il faut des millions pour l'Église. Waouh, waouh, waouh. Non, si tu transformes le cœur de l'Église, tu as les richesses. Pas inversement. Si tu cherches les richesses, ça ne va pas amener les gens à être transformés. Ok ? Il y a un pasteur, j'aimerais le citer, enfin, je cite ce qu'un pasteur a dit. La fortune, c'est dans la tête. Et la richesse, c'est dans la poche. Pourquoi cherchons-nous ce que les autres ont dans la poche plutôt que de comprendre ou d'apprendre ce qu'ils ont dans la tête ? C'était un pasteur africain qui disait souvent, les gens, ils veulent la richesse, ils veulent la richesse, ils veulent ce qu'il y a dans la poche. Oui, l'argent, c'est dans la poche. Allez, imaginons-le. Mais comment il est arrivé dans la poche ? C'est parce que cette personne a eu suffisamment dans la tête pour en avoir après dans la poche. Maintenant, comprenons-le selon la perspective biblique. C'est important de connaître ce qu'est la fortune selon le cœur de Dieu pour avoir les richesses selon Dieu. L'économie du monde est centrée sur quoi ? Sur les richesses, exactement. Si mon cœur, c'est « je veux gagner beaucoup et travailler le moins possible », je veux gagner beaucoup et je veux travailler le moins possible. Dieu, il serait là et disait ah, « j'aimerais tellement qu'il comprenne que j'ai un plan pour sa vie, il serait tellement heureux et il gagnerait un super salaire où il aurait ce qu'il faut pour vivre, j'ai tout ce qu'il faut, etc. » Ah, les principes que j'ai pour sa vie, s'il les comprenait, il serait au bénéfice de tout ça. Par contre, le royaume de Dieu, l'économie du royaume de Dieu est centrée sur la fortune. Et si mon cœur, c'est, je désire tellement servir le Seigneur, je désire tellement répondre à l'appel saint de Dieu, alors Dieu il va faire, je vais donner à mon fils ou à ma fille tout ce dont elle a besoin pour répondre à cet appel. Imaginez, vous êtes un patron et voilà, vous construisez des maisons. Et puis à vos employés, vous leur donnez pas de quoi construire une maison. Les gars, ils disent c'est bien beau, mais on sait faire, mais tu ne donnes pas de quoi faire. Dieu est excellent dans son travail. Et Dieu a toujours une perspective trigénérationnelle. Très important de le comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pense toujours à trois générations. Ok ? Par exemple, si maintenant Raymond et Josiane étaient là ce soir, j'aurais pu leur dire que Raymond, quand Dieu bénit Raymond, le cœur de Dieu, c'est que ça impacte Mathilde. Pourquoi j'ai pris Mathilde ? Parce qu'on a une petite fille. Et son cœur à Dieu, c'est que ça impacte Éline aussi. Raymond ou Josiane, Mathilde, et puis tous les autres enfants que Raymond et Josiane ont, et leurs petits-enfants, etc. Toujours dans le cœur de Dieu, on le voit dans la parole, c'est transparent, je ne fais pas l'étude appuyée par les versets ce soir, mais oui, c'est toujours trigénérationnel. Et le but, c'est de transmettre. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ? Est-ce qu'on veut transmettre la richesse ou est-ce qu'on veut transmettre la fortune ? Certaines personnes transmettent la richesse. Vous avez peut-être autour de vous des collègues, etc. Waouh ! Eux, c'est facile qu'ils réussissent dans leur vie parce que leurs parents, ils étaient riches, ils ont tout donné. Mais vous n'avez pas entendu parfois l'histoire de ces personnes-là qui... Ça ne tient pas très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, le savoir-gérer, le savoir-utiliser. Ils ont tout eu par héritage. Ok, c'est super pour eux. Et ça va s'éteindre. Mais Dieu veut qu'on soit des bénédictions sur des générations. Au minimum 3, pas seulement 3, bien plus. Et qu'est-ce qu'il veut qu'on transmette ? La vraie fortune. La fortune, ça va passer par l'éducation de nos enfants, on le verra dans le prochain, dans d'autres chapitres de la leçon, de, pardon, du cahier, du manuel, mais c'est important déjà maintenant de le comprendre. Pourquoi ? Dieu nous a laissé une prière dans sa parole qui dit, mais Jésus priait, il disait que ta volonté soit faite. En comprenant que les principes liés à la fortune selon le cœur de Dieu, on va comprendre et on va pouvoir enseigner nos enfants, nos petits-enfants, etc., à comment faire sa volonté au travers de comment faire et de comment être. Et c'est trop important, c'est comme ça qu'on va pouvoir léguer à nos enfants un héritage qui est bon. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va produire des richesses dans leur vie. Et ça va faire quoi ? Ça va produire des richesses dans la vie de leurs petits-enfants. Mais le mieux encore, c'est effectivement de leur transmettre la fortune avec des richesses. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Soyez riches selon le cœur de Dieu, avec plein de possessions, avec plein de choses, etc. C'est aucun problème parce que vous aurez le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, vous pouvez le léguer à vos enfants. Et c'est important, c'est un plus pour leur vie. Ça, c'est... Ne leur donnez pas que la fortune si vous pouvez leur donner les deux. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est une bénédiction de déposer des richesses dans leur vie pour qu'à leur tour, ils déposent la fortune en premier lieu dans la vie de leurs enfants et leurs richesses. Et ça générera des richesses. Comprenons que l'argent, parce qu'on est quand même dans une formation finance, l'argent, c'est le fruit de la fortune, c'est un fruit. C'est pas la fortune elle-même. L'argent, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Vous voyez la différence ? C'est une conséquence, ça vient dans nos vies parce que on a la fortune selon le cœur de Dieu qui est, je le répète, le savoir-faire et le savoir-être. J'ai trouvé trop bon ce petit passage, je me suis dit, waouh, j'espère que je vais pouvoir le déposer sur des cœurs qui sont brûlants pour consumer tout ça, pour dévorer toutes ces paroles. J'espère que c'était le cas. Ok ? On passe au quatrième jour. Éphésiens 6, versets 5 à 9. Allons-y. C'est ok pour vous ? Serviteurs, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur. Comme des serviteurs du Christ, servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même, et non des hommes. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur, selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de toute menace, rappelez-vous que vous avez, vous et vos serviteurs, le même maître dans les cieux, qui n'avantage personne. Colossiens 3, versets 22-25, je passe rapidement. Serviteurs, obéissez à tout, en tout, à vos maîtres d'ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Pareil, il y a des récompenses si on le fait. J'abrège le verset. Dieu n'avantage personne. 1 Pierre 2, verset 18, notre dernier verset. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. Ok, c'est un petit passage dans l'étude du travail qui est important parce que on doit comprendre que oui, il y a une responsabilité de l'employé et une responsabilité de l'employeur, d'après la parole de Dieu. Ça, c'est important de le saisir. C'est que Dieu demande l'obéissance, la soumission, etc. Pour l'employé envers son employeur, même lorsque l'employeur n'est pas bon, il n'est pas doux, il n'est pas mielleux, il n'est pas tout gentil, etc. Attention, quand on se rebelle envers un employeur, envers un supérieur, etc., d'après le cœur de Dieu, il y a des choses. Alors attention aussi, Vous n'allez pas vous laisser battre et vous laisser taper dessus injustement, etc. Mais parfois, et je vous donne un tout petit exemple, dans le lycée où je travaille, on n'a pas le droit de porter de chapeau ou de bonnet ou de casquette dans le lycée, dans l'établissement, le bâtiment lui-même. Et moi, je ne me considère pas comme un élève. Donc, je me dis, je n'ai pas les mêmes comment dire, obligations que les élèves. Ok, j'ai un cutter dans ma poche, bah, les élèves, c'est sûr, ils n'ont pas le droit d'avoir de cutter. Ok. Et un jour, parce que moi j'ai toujours une casquette. Déjà j'ai froid, j'ai pas beaucoup de cheveux, etc. Vous moquez pas, mais j'ai toujours envie de poser, enfin d'avoir ma casquette. Le bonnet, c'est vrai que je l'enlève, mais j'avais une casquette. Et le proviseur ou la proviseure m'a fait une fois une réflexion. Monsieur Manetta, vous savez, on dit aux élèves, il faudrait aussi le faire vous-même. Je dis, mais je suis pas un élève et tout. Oui, mais vous savez, c'est le règlement, etc. Et là, montée d'orgueil dans mon cœur et tout. Je dis, alors ça va pas se passer comme ça. Le moindre truc que je qu'elle me demande qui est pas juste machin, je lui redirai dans la tronche. J'ai eu comme ça des moments assez de colère et de machin, de rancœur et tout ça. Et ça s'est calmé plus tard. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je voulais juste pas accepter que j'enlève ma casquette. Des profs qui me croisaient, ils me disaient gentiment, enlever la casquette, etc. Ouh là là, alors ça va pas se passer comme ça. Je le prenais mal et tout. Mais en fait, c'est juste que j'avais un problème peut-être de soumission à une autorité, etc. Ben, c'était juste sur ce point en tout cas. Mais voilà, j'ai dû travailler ça. Et j'ai reconnu après, je dis Seigneur, je te demande pardon, c'est vraiment de l'orgueil. Ça m'a beaucoup aidé de creuser les leçons parce que du coup, les versets me parlent aussi à moi. D'accord? Ils ne parlent pas seulement à vous. Mais voilà, dans l'établissement, on n'est pas censé avoir froid. Voilà. Mais en dehors, il n'y a aucun problème. C'était dans le bâtiment. Voilà. Donc, il y a. Voilà. Ok, la responsabilité de l'employeur, c'est de servir son employé et non de le menacer. Voilà, c'est les termes qui sont donnés dans la parole de Dieu. Donc c'est très important en fait. Quand il y a une relation de donnant-donnant, de service, de soumission sainte, je crois qu'une entreprise, elle peut que marcher. S'il y a un dialogue, s'il y a une. Ok, au lieu de menacer, ben, on pourrait pas parler plutôt au lieu de te mettre des menaces. Nombre d'employeurs qui mettent des menaces sur leurs employés pour les mettre sous pression, etc. et pour les tenir, parce que c'est une sorte de gage d'autorité, etc. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est important de se souvenir, effectivement, pour qui on travaille. Vous vous souvenez le verset de la leçon? On travaille pour le Seigneur, faites tout pour le Seigneur. Donc notre travail, on devrait le faire pour le Seigneur. Oui, c'est pour un employeur et c'est le premier qu'on voit, effectivement. Mais si on pense que oui, on va servir Dieu pour cet employeur, les choses vont se passer différemment. Notre perspective, elle est complètement différente. Et c'est là ce qui nous différencie de nos collègues qui ne croient pas en Dieu. On a quelque chose qui nous motive bien plus fort, bien plus profondément dans notre cœur pour aller au travail, pour le faire de la meilleure manière qui soit, pour être excellent dans notre travail. Vous avez vu? Vous comprenez? Parfois, c'est difficile, les circonstances sont difficiles, etc. Il faut s'attacher à des choses qui peuvent être. Peuvent faire dépasser nos efforts sincères. Si on s'attache à Dieu, ça va être un peu plus facile que de dire ouais, c'est pour le patron et j'ai le patron dans le viseur, etc. C'est oh Seigneur, je veux t'honorer, pardon, et je veux te servir, je vais le faire de mon mieux. Ok, je veux pas trop m'attarder sur ce passage-là. C'est vrai que ça se creuse, mais soyons à la fois soumis à nos employeurs, mais soyons aussi des modèles, des exemples, d'accord? Parfois, c'est peut-être intéressant de suggérer à notre employeur de changer une façon, de changer quelque chose, quoi. Ça ne nous empêche pas du tout d'être des témoins dans notre travail, des exemples pour que ça se passe mieux. D'avoir des principes, on est censé avoir les meilleurs principes du monde. À nous de les extérioriser dans notre travail. On passe au cinquième jour. Ok, avec Proverbe 6, versets 6 à 11. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est assez clair, assez direct. Et les deux versets suivants, le premier, c'est Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 9. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous l'avons fait non parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Avec l'exemple des pasteurs à temps plein, on ne peut pas prendre ce verset précisément pour dire que non, les pasteurs ne devraient pas travailler, enfin, ils ne devraient pas être à temps plein à l'église, etc. Ce n'est pas une excuse. Là, c'est dans le contexte, Paul qui a vraiment fait le choix d'avoir un travail pour être un exemple à suivre, déjà, et pour n'être à la charge de personne. Okay? Donc, simplement, on voit dans ces trois passages que Dieu condamne la paresse, on l'avait vu au début, mais que Dieu aussi recherche que nous fassions notre travail de façon diligente, d'une bonne façon. Est-ce qu'on travaille avec assiduité, assidûment? Est-ce qu'on le fait avec tout notre cœur? Est-ce qu'on le fait de manière excellente? Ou est-ce qu'on sait qu'on pourrait faire plus, mais on se limite? Parce que on a des excuses, on se met des limites nous-mêmes, etc. Est-ce que c'est des choses que Dieu peut trouver dans notre cœur? C'est pas un problème, mais c'est pas un problème qu'il puisse en trouver, mais c'est un problème qu'on garde ça en nous. Bon, après, ça se travaille. Dans la leçon, justement, et vous l'avez noté pour vous, vous étiez invité à justement décrire les étapes à franchir pour décrire vos habitudes de travail, comment vous pouvez les changer, donc ça je vous laisse le faire, on fait pas tout en une fois, et je vous rappelle aussi que toute cette formation, ne soyez pas inquiets si maintenant la majeure partie vous l'avez pas encore mise en pratique, etc. Mais ça, revenez dessus. Laissez le Seigneur vous interpeller, vous dire, ok, va peut-être revoir la leçon 3, la leçon 4, ce point-ci en particulier. Tu sais. Parce que vous ne pouvez pas tout digérer en un seul coup. Okay? Là, vous prenez 3-4 mois dans votre sac à dos, etc. Et gardez ce sac à dos à disposition et puis piochez ce qu'il vous faut. Revenez dessus, etc. Et puis retravaillez. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec Mathilde, etc. On a besoin et ça se fait sur des années. Et ceux qui ont beaucoup d'expérience nous disent qu'après 40 ans, 50 ans, il y a encore des choses à travailler. Heureusement, on n'est pas parfait, on tend à l'être et le Seigneur nous y amène par son esprit. Ok, Exode 34, verset 21, c'est le verset suivant. Vous avez 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e le 7e jour, vous cesserez toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Et là, il y a un petit chapitre que j'aimerais ouvrir, c'est le chapitre qui traite du repos. Parce qu'on parle de travail, mais le travail, c'est aussi en rapport avec le repos. On a tous le même nombre de jours dans la semaine, on est d'accord. On a tous 7 jours, voilà, personne ne peut en rajouter ou en enlever un. Enfin, ce serait un peu délicat, mais on a tous 7 jours. Et la parole nous dit que dans ces 7 jours-là, effectivement, il devrait y avoir un jour dédié au repos, un 1/7 de notre temps. Alors, on ne va pas aller dans une polémique de le dimanche, etc. C'est le jour du Seigneur, on ne devrait pas travailler, etc. C'est simplement de comprendre le fond. C'est que Dieu veut qu'on soit reposé pour qu'on puisse bien travailler. Il veut qu'on puisse travailler pour pouvoir profiter d'un jour de repos. Ça marche dans les deux sens. En fait, le repos, c'est pas seulement charnel. Souvent, on se dit, ah, il faut que je dorme, d'accord, il faut que je me pose sur une chaise pendant une journée, alors que moi, j'aime bien être actif, etc. Non, non, c'est vraiment pas ça. Le repos, il est spirituel aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu, qui n'est pas charnel, il est spirituel, aussi a eu besoin et a pris carrément du repos. Je ne lis pas le verset, c'est Genèse 2, verset 2, qui le mentionne. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Dieu nous invite à nous arrêter dans nos activités. Les activités qui sont en fait pour les 6 jours. Là. Ces fameux 6-7e de temps, on a fait plein d'activités, etc. Là, il dit, arrêtez ces activités-là, maintenant, concentrez-vous sur autre chose. On dit souvent que justement le dimanche, oui, je l'ai noté comme ça, c'est le jour du Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prier toute la journée. D'accord ? Ça peut aider certains à le comprendre, parce que on peut se dire, waouh, jour du Seigneur, et même les non-chrétiens, ils le disent tous, parce que c'est carrément devenu un proverbe ou un oui, c'est le jour du Seigneur, etc. Et puis quand vous sortez, bref, vous faites un peu de jardinage à côté de chez votre voisin, il ne comprend pas, etc. Mais Dieu aimerait qu'on s'arrête et qu'après avoir bien bossé, parce qu'on a fait notre travail de façon diligente pendant 6 jours, on puisse prendre un temps où on va pouvoir, par exemple, se concentrer sur qui il est, sur lui, se concentrer sur notre relation avec lui. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'un jour par semaine où on a le droit de développer notre relation avec Dieu. Ça devrait être vraiment... quelque chose qu'on fait au quotidien, qu'on a une communion quotidienne. C'est vraiment ça que le Seigneur nous invite à faire. Mais pourquoi pas, pendant un jour, vraiment un temps, 1/7 de notre temps, un peu mieux se concentrer sur lui. C'est un exemple. Prendre des temps de qualité avec lui. Moi, perso, j'ai assez de choses à faire dans mon agenda pour m'occuper 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si je voulais ne pas dormir, je saurais quoi faire. Je trouverais des activités. Donc, il a fallu que je comprenne ça, que si je ne me bloque pas un temps particulier avec Dieu dans mon agenda, parfois je prends mon téléphone et je mets rendez-vous perso avec Dieu. Personne ne peut prendre ce rendez-vous-là, etc. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'ai besoin dans mes semaines de me dire ce temps-là, personne ne me le volera. Et parfois, quelqu'un essaye, quelque chose essaye. Et je suis obligé de le faire, sinon je me fais voler ce temps. Sinon, je n'en ai jamais, parce que j'ai une nature à être assez actif et à faire des projets, et à avoir plein de choses à faire, à préparer, etc. Ou parfois, j'ai juste pas envie, etc. Donc, je me fais voler ce temps. Et je me mets pas dans les meilleures conditions. Mais quand on a un rendez-vous, un rendez-vous avec notre chérie ou avec un employeur, etc., on se prépare pour ça. On se met bien, on s'habille. Parfois, je me mets en pyjama ou je me mets bien. Et puis, je me brosse les dents, je me coiffe, mais vous allez rigoler. Mais je me mets bien. Je fais le lit dans ma chambre et je dis, Seigneur, maintenant, tu peux venir, tout est nickel. C'est juste une question d'attitude. Pour moi, ce n'est pas un détail. Pour moi, c'est important de faire le lit où parfois, il est complètement défait et je me dis, je vais inviter Jésus à venir maintenant, là. Je ne le ferai même pas pour un ami, alors pourquoi Jésus ? Et voilà, je me mets juste dans les bonnes dispositions. Prenons du temps de qualité avec Dieu. Mais aussi, dans ce 1/7 de temps, faisons des choses aussi qui nous reposent. Pour certains, se reposer, c'est faire une marche en montagne. Waouh, là, c'était reposant, c'était ressourçant, j'ai pris un bol d'air et je suis requinqué au max pour repartir dans mes 6 jours de travail. Parfois, c'est un repas de famille, parfois, c'est se poser sur la chaise longue, c'est du jardinage, c'est de la peinture. J'ai entendu des gens qui disaient, moi, je refais une chambre complètement en peinture et ça me détend, ça me fait trop du bien, je suis trop content. Et voilà. Je dis, moi, ça, j'aime bien, mais je le fais tellement la semaine que je ne vais pas faire ça pour me reposer. Mais vous avez compris, ça ne veut pas dire on reste assis sur une chaise et on ne fait rien toute la journée. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que dans notre chair, on soit ressourcé, on soit bien en forme. Pourquoi ? Parce que les 6 jours, Qu'est-ce qui va se passer? On va être un témoignage dans notre travail, parce que dans notre et avec le travail, Dieu va révéler qui on est. Et c'est vrai que si on est sous pression, si on est tendu, etc., on va vivre ce temps de travail d'une manière différente. Okay? On a besoin de recharger nos batteries. Parfois, ça passe par des temps de vacances. Okay? Et ça, c'est très, très important. Souvent, avec Mathilde, ben, une fois par année, on aime bien prendre vraiment des grosses vacances. On se dit, on repart. Mais quand on revient, et certains nous connaissent pour le savoir, on a plein d'idées, on a plein de projets. On a envie de rentrer de nos vacances. Quand on est, par exemple, à l'étranger, ça nous est déjà arrivé de nous réjouir de prendre l'avion de retour et de dire vivement qu'on soit nous à Strasbourg parce que waouh, ça brûle sur nos cœurs. Ces temps de vacances ont été bénéfiques pour plein de choses, mais aussi pour régénérer une vision dans notre cœur, pour régénérer notre amour pour Dieu dans le cœur, etc. Il y a besoin du repos pour ça. Et si on n'a pas ces temps de repos, on n'a pas ça. Et ça peut amener à un ennemi qui est là, qui existe, que le diable utilise et qu'il utilise très très bien chez les chrétiens. C'est l'épuisement. C'est aussi ce que j'aimerais parler un petit peu ce soir. C'est pas quand Dieu, quand tu es actif dans l'église à fond, parce que oui, moi je sers dans l'église, mais je le fais à fond, j'en peux plus, tout ça, j'y vais à fond, mais je sers le Seigneur, je sers le Seigneur. C'est pas dans ces moments-là que le Seigneur pourrait te parler. Il peut le faire, je suis d'accord. Ah purée, il est dans ma maison, etc., il fait des super choses, mais il n'est pas dispo. Je ne peux pas vraiment lui parler. Tu as besoin parfois de t'arrêter et de dire, ok, au lieu de t'épuiser, prends un temps, ressource-toi en moi. Comme si Dieu nous disait ça. C'est important de travailler, on l'a vu, et encore, on va le voir encore plus, mais c'est aussi, le sommeil est important aussi. Et en fait, quand j'écrivais Céline, là, je lis mes notes comme ça, j'étais en train, c'était trop marrant, j'étais en train de bâiller, mais alors, j'étais trop KO. Vous n'imaginez même pas comment j'étais au moment où je passais ce chapitre-là de la leçon, j'étais KO. Et moi, je me dis, mais j'ai complètement besoin de travailler à mon sommeil. De travailler à mon sommeil. C'est intéressant dans cette leçon-là. Mais c'est vrai que je dois faire attention parce que parfois, c'est la fatigue qui me fait aller me coucher. Parce que je suis KO, je vais me coucher. Sinon, j'aurais continué. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Parfois, c'est de se dire, ok, je m'arrête maintenant, je m'étais donné un temps imparti et je vais me coucher, je vais me reposer. Et demain, je me lève peut-être plus tôt et je serai en forme. Attention, il y a une phrase que j'aimerais citer, que j'ai déjà entendue. Si le diable n'arrive pas à nous arrêter, s'il n'arrive pas à nous stopper en nous mettant plein de barrières, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous pousser en avant. Attention. Pourquoi? Parce que s'il nous pousse en avant, il nous envoie, il nous wow, roule et boulet, etc., et on n'arrive plus à s'arrêter, on est dans le feu de l'action, on est dans l'hyperactivité, etc., l'activisme, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être que c'est clair, c'est dangereux, attention, l'épuisement n'est pas loin. Et quand on est épuisé, qu'est-ce qui se passe? Quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, on n'est plus vulnérable aux mauvaises pensées. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Facile qu'elles viennent, puis on ressasse des mauvaises pensées. On est moins positif. Purée, d'habitude, il est joyeux, etc. Là, il est KO, il est moins positif. On est moins disposé pour louer Dieu. Oh là, j'ai pas trop la force. Ça vient pas de mon cœur, d'ailleurs. Oh, je préfère pas trop le faire. On fait moins d'efforts. Oh, tablette de choco, là. Allez, hop, c'est parti. Et on la descend. Oh là, je crois que je viens de toucher tout le monde. Je plaisante. On fait moins d'efforts dans tous les domaines. On est moins joyeux. On est moins motivé. On est plus susceptible. Moi, je suis plus susceptible quand je suis KO. Ah, les choses, elles me piquent beaucoup plus facilement. Et le dernier point que j'ai noté, il y a la liste, vous pouvez l'étaler, là, elle est longue. Mais on est moins beau et on est moins belle. C'est tout banal. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, finalement, ça va se voir sur nous. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est moins inspirant. Inspirant, ça veut dire, waouh, toucher les autres. Ça veut dire, qu'est-ce que je communique à l'autre? Waouh, parfois, j'aime bien voir regarder un peu les visages des gens, etc., comment ils prennent soin d'eux et tout. Et ça me touche, les gens qui prennent soin d'eux, qui ont des belles couleurs, qui sont en santé, etc. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont inspirants. OK? Et nous devons montrer l'exemple. On devrait être inspirant aussi. Alors, je ne dis pas, il y a des saisons dans nos vies qui nous demandent de dormir un petit peu moins. Parfois, quand vous avez une nouvelle naissance, c'est clair que vous allez dormir moins. Donc, tout ça, c'est pas condamnable, c'est pas culpabilisant, attention. Mais discernons aussi ces moments-là où on est dans le je fais moins confiance à Dieu et j'y vais, je fonce. Et je suis aussi comme ça. J'ai besoin de le travailler, me dire peut-être stop. Seigneur, maintenant montre-moi combien tu es puissant et combien tu vas agir dans cette situation. Moi, je me retire un petit peu, je te laisse le contrôle et vas-y. Je vais me reposer en toi. Vous la connaissez, cette expression? Se reposer dans le Seigneur. Mais c'est vrai, c'est très important. Et tout ce que je dis, je dois aussi moi-même le mettre en pratique et y travailler. Alors justement, il y avait deux questions qui étaient posées. Est-ce que vos temps de repos sont suffisants? Et que faites-vous pour éviter la surcharge de travail? Vous y avez répondu ou pas? Travaillez-y, je vous y encourage. C'est important, juste parfois, de se remettre en question. C'est bon d'avoir des gens autour de nous qui nous disent: Hey, je sais que Matt était un bon soutien quand parfois il voyait que je rentrais dans l'activisme, etc. Et il me montrait que aussi que je pouvais soit être déchargé. C'est-à-dire que j'ai pris trop de responsabilités ou que je fais tout moi-même alors que non, 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 il y a du monde autour de toi pour t'épauler. Il était là pour juste me dire: Hey, attends, tu vas arrêter et puis on va te mettre une équipe pour t'aider, etc. Waouh, et ça m'a fait du bien et je peux me reposer. Vous voyez, c'est important d'avoir les gens autour de nous et n'hésitez pas les uns les autres. Si vous discernez que des personnes sont en train d'aller droit dans l'épuisement, dans le burn-out, dans les choses comme ça, attention, aidons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres. Ça marche? En fait, j'ai parlé du sommeil, il y a tout le monde qui est en train de faire ce que j'ai dit, en fait. Non, je plaisante. Je plaisante. On arrive au sixième jour, on est dans la dernière lancée, la dernière lignée. Il y a encore du bon. Il y a encore du bon pour ce soir. Avant la vidéo, effectivement. Ok. Alors, j'aimerais juste, sur les trois versets qui nous sont proposés, ou même il y en a un petit peu plus, je ne sais pas si vous avez remarqué. Que Nombre 16, versets 46 à 50, ça n'existe pas. Enfin, c'était introuvable en tout cas. Ça dépend les versions. Tu l'avais? Ah, d'accord. Parce que j'ai cherché même plusieurs versions et je ne l'ai pas trouvé. Ah, ok. D'accord. C'est une bonne info. Moi, je pensais que c'était vraiment. Que c'était peut-être une erreur de frappe ou quelque chose. Ok. Nombre 16, 46 à 50. D'accord. Ok, pourtant j'ai essayé de chercher dans différentes versions, mais a priori. Okay. Dans quoi? Dans le Louis II, on peut trouver ça. Ok. D'accord, j'ai peut-être juste zappé cette version-là. T'as Louis II et tu l'as pas. Ok. Bon. Ok. Peu importe. Tu l'as aussi dans tes. Ok. Ok. Donc on n'a pas tous la même Bible. Ah. Ok. Peu importe, c'est pas grave. Mais c'était juste une petite remarque au cas où. Mais j'aimerais qu'on prenne ce soir Jacques 2, versets 24 à 25. Tous les autres versets, vous les avez notés dans votre cahier aussi, celui-là aussi. Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accompli les elle avait accueilli, pardon, les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. Tous les versets qui étaient suggérés nous parlent d'une chose, c'est que nos choix font une réelle différence. Et c'est important qu'on comprenne que on n'est pas seulement là pour nous-mêmes, parce que nos choix, effectivement, vont impacter notre vie. On a vu que développer l'esprit de Dieu qui touche à la fortune, ça va nous bénir, ça va nous apporter des richesses, ça va bénir nos enfants, etc. Mais oui, avant d'aller vers d'autres, on est béni, mais Dieu veut toucher les autres. Il a vraiment le cœur à aller vers les autres. Et c'est justement, parfois même, le destin d'une nation entière qui est entre nos mains. C'est ce qu'il faut comprendre. Les versets-là nous y encourageaient. Voilà, je n'avais pas le mot, merci. Mais on a besoin de comprendre qu'on a un rôle, chacun a un rôle à jouer dans l'histoire. Dieu est en train d'écrire une histoire sur cette terre. À nous de jouer le rôle. Et ça passe par le travail, effectivement. Les choix qu'on fait peuvent changer le cours de l'histoire. Et moi, je rêve à l'idée de voir des hommes et des femmes se lever et de dire, OK, nous, on a choisi de penser différemment, on est des enfants de Dieu et on va impacter nos sphères d'influence, mais bien plus large, nos villes, nos territoires, nos États, etc. Et on peut faire la différence. Et souvent, quand on crie à Dieu, on peut sauver des situations désespérées. La parole nous le montre, à nous aussi, de nous mettre à genoux, de chercher Dieu dans la prière, d'être reposé, de prendre ces temps de qualité avec lui et de crier à lui, de dire parfois, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes, etc. Donc ça rentre, vous voyez, la notion de repos, la notion de travail sont intimement liées, intimement ou... Je perds tous mes mots ce soir, mais ils sont très très proches. Ils sont reliés. On a besoin justement de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Et ça, c'est pas un secret que je vous révèle, mais parfois on se met pas dans les bonnes dispositions pour le voir agir. Ok. Il y avait un très très long verset, Daniel 9, versets 3 à 19, Proverbe 25, versets 2 à 3, et Genèse 2, versets 19-20, aussi Genèse 2, versets 16 à 17. Tous ces versets, on ne va pas les lire ce soir, vous les avez lus, vous pouvez continuer, je vous encourage à les méditer, etc., à comprendre. Mais ce qui en ressortait, j'aimerais avancer, c'est que justement, on a chacun de nous un rôle particulier à jouer et que nos actes ont un impact significatif sur la création. Ça peut être sur la création de Dieu, sur l'histoire et sur quoi ? Sur la venue du royaume de Dieu. Des choses qui ont été, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui vont venir. Et sur tout ça, on peut avoir un impact. À nous de faire le choix de vouloir impacter pour le royaume de Dieu. Ok, il y avait une dernière notion qui était donnée dans la leçon, c'est la notion de partenariat. Et c'est très important de comprendre certains versets, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, parce que dans le travail, il va sans doute se passer des choses où on va devoir se mettre en partenariat avec d'autres. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Je m'arrête là. Le verset dit « d'une manière absurde ». Ça ne veut pas dire « ne le faites pas », mais « ne le faites pas d'une manière absurde ». Donc attention, quand les personnes vous disent « waouh, il n'est pas chrétien, tu t'es mis en partenariat avec lui, attention, c'est pas de la parole, c'est pas bien, tu désobéis ». Il y a un danger, parce que de manière absurde, on pourrait effectivement... si on n'a pas mesuré correctement les choses, si on n'a pas demandé à Dieu, et je crois que c'est la meilleure façon de le faire, si on n'a pas demandé à Dieu le feu vert, ne le faisons pas. parce que ça peut amener de terribles conséquences. Le verset, enfin les quatre versets nous en parleront, et ils nous demandent même de nous séparer d'eux. C'est vraiment une très franche invitation, mais je crois que Dieu a un cœur de partenaire. Donc Dieu veut travailler avec nous et on a à travailler avec des gens. Si on devait uniquement travailler avec des chrétiens, ce serait peut-être limitateur. Je crois que Dieu n'est pas contre, mais il nous demande de faire très attention. Et à vous, si vous êtes dans la situation, d'évaluer les choses, demander conseil. On revient à la leçon, les quelques leçons précédentes où on parlait du conseil. On a besoin justement de se donner des bons conseils dans telle ou telle situation, surtout quand on va fermer des partenariats. Ça parle des affaires, notamment des affaires. Mais attention, on peut le faire dans différentes... pour moi, un partenaire, c'est aussi un partenaire de vie. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Demandez l'avis du Seigneur, recherchez son cœur. Et c'est vraiment très important parce que des conséquences peuvent être très, très difficiles ensuite. Mais pour finir la soirée, j'aimerais vous parler de ce qui est possible et de ce qui est merveilleux quand on fait un partenariat avec Dieu, quand on met vraiment le Saint-Esprit au centre. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui agit. Quand Dieu parle, l'Esprit agit. Et on a vu qu'au début, je parlais de ce témoignage de faire le poirier dans une station essence. Ça peut avoir des conséquences merveilleuses. Ça a touché une personne, etc. Vous l'avez entendu. Mais on a aussi vu que dans la leçon, le plus important, c'est de développer notre caractère, la fortune, nos aptitudes. Ça passe par le travail. On ne peut pas le faire autrement. Et c'est pour ça que c'est bon de voir le travail comme une bénédiction. Et c'est ce terrain-là que Dieu a instauré pour développer notre caractère et nos aptitudes, je le redis. Quand on développe ça, on a vu que ça développe nos richesses. On en a besoin. On a besoin des richesses pour développer le royaume de Dieu, mais ce n'est pas la priorité. Mais on en a besoin. Et on a vu dans les leçons précédentes que pour être un gérant fidèle, comme un gérant fidèle, on peut utiliser ensuite les richesses qui vont nous être données. Bien sûr, sans oublier nos propres besoins, nos désirs, etc. On l'a aussi vu. Et je crois que Dieu va augmenter nos richesses dans notre vie à la mesure dont on va travailler nos aptitudes et nos caractères. Alors, justement, dans cette dernière partie, on est bientôt à la fin. J'ai envie de vous faire part d'une réflexion personnelle. Je regarde simplement mes notes pour être sûr de vous transmettre ce que j'ai bien pensé à ce moment-là. Oui. Ma réflexion, c'était que parfois, enfin, l'effet surtout de cette réflexion, c'était du mécontentement. J'étais parfois une sorte de colère, peut-être une sainte colère, peut-être une sorte de révolte. En fait, à l'idée que quoi ? Que les chrétiens... Sur la terre, ils ne sont pas tous les meilleurs dans leur domaine. Je connais beaucoup de chrétiens, voilà, ça ne fait pas longtemps que je n'ai pas énormément d'expérience, je n'ai pas 50 ans derrière moi, mais j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Et pour moi, je me disais, mais attends, quand tu es chrétien, ça c'était avant que je donne mon cœur à Jésus, je me levais le matin et je me dis, wow, avec Dieu, en fait, la vie, elle doit être parfaite parce que c'est le meilleur. Avec lui, il n'y a rien de mauvais, etc. Il n'y a plus de péché, c'est fini, etc. Et c'est pas que j'ai eu une douche froide, mais je me suis dit, mais mince, c'est pas la réalité que je vois et que je vis. Moi, j'ai envie de... Enfin, c'est bizarre, quoi. Pourquoi ? Parce que, vous imaginez, on a un Dieu, il sait tout. Il est tout puissant. Il est partout. Il est jamais surpris. Il a toutes les solutions à tous les problèmes. Et nous, on galère. Ou on n'est pas forcément en adéquation avec cette réalité-là. Pourtant, on croit en ce Dieu-là. Où c'est qu'il est le problème ? Et ça, c'était un petit peu mon constat. Et j'ai vu, et ce qui me révolte surtout, c'est que le monde propose des choses qui wow, mais c'est parfois c'est du haut niveau. C'est propre, c'est carré. Il y a des gens qui croient même pas en Dieu, qui mettent en place les principes que Dieu a établis sans même parfois le savoir. Ils ont du succès. Et nous qui sommes censés les savoir, on ne met pas en pratique. Et ça, je suis un peu le. Je tape dans la fourmilière pour me. Je suis révolté, je suis pas content. Mais vraiment, je me dis, j'aimerais, j'aspire à ce qu'on devienne, nous chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, les meilleurs dans tous les domaines. Peu importe le domaine, qu'on aille dans du haut niveau et qu'on aille dans l'excellence. Pourquoi? Pour influencer les autres. Quand on est au top, on ne peut pas nous dépasser, mais on peut être inspirant pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on aura, je le répète, la bonne façon de penser. On ne sera pas orgueilleux, on n'aura pas envie d'avoir de l'argent plus que tout, etc. Mais tout ça, ce sera cadré par les principes de Dieu. Donc, j'aimerais vous donner un exemple, si la vidéo peut se préparer. Où justement, il y a une personne qui m'a. Et j'en ai plein en fait des témoignages. J'ai commencé à entendre des témoignages concrets de personnes qui vivent sur cette terre. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les sentir, les serrer dans vos bras. Elles sont plus ou moins loin. Certaines c'était aux États-Unis, d'autres en Australie, d'autres très très loin. Mais ensuite, j'ai commencé à en rencontrer des personnes qui sont très proches, ici en France. J'ai commencé à leur parler, etc. De personnes qui, avec le Saint-Esprit, vivent des choses extraordinaire. Et là, dans cette vidéo, ceux qui sont sur le net, vous l'avez normalement dans vos emails, vous pouvez la regarder. La vidéo est en anglais, elle est sous-titrée. C'est pour ça que je vous ai mis dans cette disposition ce soir et qu'on puisse éteindre les lumières aussi. Mais que vous puissiez comprendre qu'avec le Saint-Esprit, on peut réellement faire la différence, si on le veut. Ok. Tu peux envoyer la vidéo. Et puis nous mettre dans le blackout.
In the late 70s, I heard God's voice. I mean, it was like the hair in the back of my neck stood up. And he said, I'm going to prosper you in business so you can be self-sufficient in ministry. And I was like, Lord, I hate begging, so I love that idea. I love giving. And he said, I know every answer to every problem in the world. And I wasn't even particularly being spiritual or praying at that moment. I was just walking through the house, and all of a sudden I heard his voice again. And I just thought about for a second, I know every answer to every problem in the world. And I said, well, of course, because you're God. And I thought that was it. And then he came back and he said, if mankind would just ask me, I'd give them those answers. And I was like, of course. And I got on my knees and said, God, and I was in tears by this moment. I said, I feel like I'm supposed to move into archery. And I'd been building bows for myself for years, but I said, I know you know how to make better bows. So if you would give me those ideas, and I actually prayed, God, blind the eyes of everybody else, because I know what I'm going to do with the money. And I literally woke up 2 weeks later, approximately, in the middle of the night, sat straight up in bed. And my wife woke up and she says, what's going on? I said, honey, I'm literally having a vision. It's like a sheet of paper in front of my face of a new bow concept. I've never thought of it. It's unique. It's different. I've never seen anything like this. And so I said, I'm going to get up. I'm going to draw this down. And when I wake up in the morning, if it still makes sense, then I realize that absolutely this was a vision and it wasn't a dream. And I woke up in the morning, looked at it again. And I thought, oh my goodness, this is a new direction. And so I literally started my bow companies on that vision. The guitar thing was another element of, hey, God, I know that you know how to make better guitars. I literally prayed that prayer, and I'm asking for that wisdom. And right away, he started giving me these ideas. You can see that the neck does not touch the top. It's cantilevered. They call it cantilevered. That just means it's connected only on one end. That allows more of the top to vibrate, and having a hole up here leaves a much larger soundboard. So when I hit a, you know, hit strings, it just rings and rings and rings and rings like a grand piano would, because it's longer and energy stores and releases more efficiently. And so when we first started building them, I pretty much rejected every one they built, because I wanted them to realize we needed a standard that was really the highest standard in the world. And the reality is, if we only put out this crazy standard, at some point people are going to realize, oh my goodness, these guys are crazy, but I love it, and that's the kind of guitar I want to buy. I believe that, especially in these last days, Christian businessmen are going to play a huge part of bringing people to Christ. I could invest $1 million, let's say, in 10 scholars. Or you could take that same million and actually maybe indirectly lead 3, 4, 5 million people to Christ. I know what I'm going to do. The most important thing that we do is be faithful. I think that's the biggest thing. What does God ask you to do? Be faithful. Be faithful to what He asks you to do. And sometimes it's little things. Look at what everybody's done out there and say, you know what? If I'm going to go after this, I'm going to go after it with excellence. No matter if you're a writer or a singer or a performer or a builder or a craftsman with your hands, people aren't looking for ordinary. They're looking for extraordinary. And I have found that most people are afraid to actually try the extraordinary. I'm not sure exactly why, but people are looking for that. And there's always a market for excellent product. It's obvious that God had a huge part of this because we're considered the number one archery company in the world, and many consider us the number one guitar company in the world. I'm either the luckiest guy that ever lived, or I'm experiencing God's favor, and obviously that's what I believe it is.
Okay. Est-ce que ça vous a encouragé? Moi, j'aime trop. Cette vidéo, j'ai pu la voir là, juste cette semaine. Je ne l'avais jamais vue avant, mais je connaissais son témoignage parce que quelqu'un me l'avait raconté. Ce quelqu'un, il avait vécu un rêve où Dieu lui a montré une solution, comment agir dans son travail. Il est devenu le meilleur dans son travail. Et je crois que Dieu n'a pas de favori et n'a pas de chouchou, si vous le voulez. Dieu a dit à MacPherson, à Matt MacPherson, il s'appelle, il a dit, si l'humanité me le demandait, je donnerais des solutions. Il va nous révéler. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si on est fidèle. Et qu'est-ce que c'est? C'est le caractère, c'est la fortune, c'est le comment faire et le comment être. Parce que le succès est venu. Et il savait comment gérer ce succès. Il le gère pour Dieu. Et je crois que Dieu va élever des personnes qui ont un cœur pour lui. Et tout le pourquoi de cette formation, c'est de devenir des personnes que Dieu va pouvoir utiliser pour avoir un impact extraordinaire. Les gens cherchent, vous l'avez vu, de l'extraordinaire. Et c'est incroyable. Je pourrais vous en donner beaucoup encore de témoignages parce que je les recherche. Et je vais peut-être le faire dans les fois prochaines, on verra si j'ai le temps. Mais j'ai vu des témoignages très concrets de ce que Dieu est capable de faire au travers d'une personne qui se laisse utiliser. Et moi, j'aspire à ce que Dieu puisse me réveiller la nuit ou me donner une idée, parce qu'elle viendra de lui. Et vous avez vu, j'aime beaucoup cet homme, il rend la gloire à Dieu. Quand il est interviewé, il dit que c'est Dieu qui m'a donné cette idée. Et vous savez quoi, Chris Tomlin, tous les mecs qui font de la louange à un niveau assez élevé dans le monde, ils ont des guitares comme ça. Et quand j'étais au Salon de la musique à Francfort, qui est à 2 heures d'ici, j'ai vu des guitares de lui. Je l'ai reconnu direct, c'est la Rosas qui fait ça. Elles sont uniques au monde. Et vous avez vu la qualité? C'est nickel. J'aime tellement. Ça passe par quoi? Ça passe par le travail. Dieu a vu un homme. Il ne lui a pas donné à inventer des arcs, un nouvel type d'arc, parce qu'il était archéologue. Pas mal le jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Mais parce que toute sa jeunesse, ce gars-là, il travaillait à construire des arcs, etc. Et Dieu lui a juste montré comment tu fais un arc. C'est quoi ton domaine? Parce que c'est dans ton domaine que Dieu va faire une différence. Ça ne sert à rien de chercher le domaine qui est propre à moi, mon domaine. Peut-être que c'est... On a des coïncidences, etc. Mais dans ton domaine, il n'y a pas de sous-domaine. Tous les domaines sont tellement... J'ai envie de vous arroser avec ça ce soir parce que c'est ce que Dieu va faire. Et je crois que dans cette église, et je le déclare au nom de Jésus, il va lever des personnes qui ont un cœur, qui ont développé le caractère pour leur donner des possibilités nouvelles et pour faire des richesses, pour avoir un impact et toucher la société, toucher les autres pour Jésus-Christ. Je veux me battre, je veux déclarer que oui, ça va être possible pour vous. Je suis trop heureux. Vous voyez pourquoi j'étais tout, j'étais tout chose de vous annoncer cette soirée. Mais ça passe par le travail. Il y a un engagement, il y a besoin de montrer. Et oui, l'église, c'est un terrain d'entraînement, je le redis. C'est super pour commencer à travailler. Si vous, si vous avez des talents, allez-y. Mettez-vous au service du Seigneur. Et puis faites votre travail si vous avez fait, si vous n'êtes pas dans les études. Mais ça passe aussi, c'est valable pour les gens qui ont un métier, mais pour les étudiants, pour ceux qui vont rentrer dans les études, etc. C'est valable pour tout le monde. Dieu nous teste, enfin, il regarde les capacités qu'on a dans chaque étape de nos vies au travers du travail. Comment tu révises tes leçons? Dieu voit ça et Dieu peut te confier des choses parce qu'il a vu que tu es fidèle. Comment tu finalises ton doctorat ou j'en sais rien, comment tu bosses en tant qu'ingénieur ou en tant que laveur de vaisselle dans un lycée, etc. Dieu voit toutes ces choses-là. Et si tu le fais avec un cœur pour lui, attention, il va t'amener dans des sphères et à toucher les sphères qu'il a envie d'impacter au travers de toi. Ok ? Je vous laisse avec ça ce soir. C'était compact, mais j'ai trop aimé. J'espère que, oui, revenez dessus. La vidéo, je vais l'envoyer seulement si les personnes entendent le cours. J'ai vraiment à cœur de faire ça parce que c'est important d'entendre le pourquoi. Pourquoi cette vidéo ? Pourquoi ? C'est l'aboutissement de la leçon de ce soir. Et je vous l'enverrai aussi à vous qui avez suivi la leçon, etc. Donc, demandez-la moi si vous avez entendu l'enregistrement. Mais attention, je vous demanderai juste de ne pas la partager. Pourquoi ? Parce que on a pris une vidéo YouTube, c'est nous-mêmes qui avons fait les sous-titres. On a encore travaillé ça et merci à ceux qui l'ont fait. Spécialement pour ce soir. Donc, voilà, si vous voulez la passer avec quelqu'un qui vient chez vous et juste lui montrer, ça, c'est pas un problème, mais ne la diffusez pas sur les réseaux, etc., parce que on n'en a pas les droits. Voilà, c'est juste ça. Ce serait peut-être pas grave, mais on n'en a pas les droits, donc on le fera pas. Ok, est-ce que vous avez des questions? Je voudrais juste vous laissez aussi un petit temps, parce que j'ai beaucoup parlé ce soir, j'ai pas trop laissé la parole. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui sont remontées, que vous avez notées peut-être? Je vous laisse du temps, un petit peu de temps, et après je vous propose de prier pour la fin de la soirée.
Je voulais partager quelque chose qui m'est arrivé, il y a peut-être une semaine. Moi, je suis aide-soignante, mais avant, j'étais secrétaire comptable, hein. Donc, je travaillais sur des bulletins, sur des logiciels de comptabilité, la paye, tout ça. Et donc, j'étais à faire mon boulot, j'étais dans les vestiaires, et je pensais justement au cours finance. Je revoyais, on pensait toutes les tableaux qui sont là. Je disais, bon, comment je vais pouvoir faire et tout pour faire pareil. J'ai visualisé l'Excel, comment faire. Et puis, tout à coup, une idée m'est tombée dessus, et je sais que ça ne vient pas de moi. Et c'est, une voix m'a dit, Ghislaine, tu es comptable. Tu as déjà travaillé en comptabilité sur des logiciels. Traite ta maison, ton foyer, tes finances comme une entreprise. Donc, tiens tes comptes comme une entreprise, pareil. Et là, ce sera bien, ce sera plus rapide, c'est moins de travail et puis ce sera très précis. Et tu auras même un compte de résultat annuel, bénéfices, tout ça. Et je trouvais l'idée vraiment trop géniale. Et bien, c'est ce que je vais faire.
Nickel. Ah ben, super. Merci Seigneur pour cette idée. Et ouais. Carrément, Dieu nous inspire et nous montre. On n'est pas forcément. Vous avez vu sur la vidéo, il n'était pas dans un temps de prière forcément super intense, une semaine de jeûne et prière, etc. C'est très bien de faire ça, mais je crois que Dieu cherche juste un cœur disponible. Là, quand Dieu l'a interpellé, MacPherson, il a trouvé quelqu'un de dispo. Et il va nous révéler des choses. Vous avez des questions? Non, ok. Je vais prier. Merci Seigneur, merci beaucoup, merci infiniment Seigneur pour cette soirée, de m'avoir utilisé Père, parce que je crois que c'est ta parole que j'ai annoncée et je veux encore l'annoncer avec autant de passion et sers-toi de moi Père, passe au travers de ma bouche autant de fois que tu voudras et sers-toi de moi aussi pour tous les projets Père que tu as, euh, que que tu as imaginées, préparées, que tu as, où tu as passé du temps à les concocter pour moi. Mais de la même façon, Seigneur, trouve les cœurs de mes frères et sœurs ici et ceux qui font la formation ou ceux de l'Église, Seigneur, qui ont envie d'avancer avec toi. Bénis-les, Seigneur. Fais que cet enseignement sur le travail et qu'ils puissent comprendre que par le travail, Seigneur, tu révèles notre âme, tu révèles qui on est et tu nous permets d'être et d'atteindre la stature bonne pour nous donner des responsabilités nouvelles ou plus grosses, plus importantes. Seigneur, vraiment fais avec tes enfants, Seigneur, un peuple qui soit réveillé, Seigneur, qui soit attentif à toi, qui soit passionné pour toi et qui a envie, Seigneur, de refléter ta gloire ici sur cette terre avant de passer dans le ciel. Et merci, Seigneur, encore pour cette soirée. Merci pour tous ceux qui sont venus, Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont entendre l'enregistrement. Bénis-les. Merci pour tous ceux qui sont en ligne, à distance, Seigneur. Bénis-les par ton esprit qui est partout, qui est tout puissant et qui sait tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue de nous encourager dans cette formation pour les diverses sessions qui nous restent, Seigneur, afin qu'on puisse aller jusqu'au bout et être bénis selon ce que tu auras pour chacun, Seigneur. Parce que tu sais bénir avec abondance. Amen. Merci. Merci d'être venu. Je voudrais juste encore rajouter que le prochain rendez-vous très important, c'est le 12 janvier 2018. On va parler de la notion d'investir. Entre-temps, passez de bonnes fêtes. Que Dieu vraiment vous bénisse dans ces temps, si vous êtes en famille ou entre amis, ou si vous êtes un peu plus seul, etc., que vous puissiez passer cette nouvelle année, peut-être rattraper le retard de la formation. Profitez-en pour bosser. Et j'aimerais juste donner une dernière info. J'avais dit par email que ceux qui viennent ou qui ont l'intention ferme de venir au Portugal pour la conférence, venez me voir à la fin du cours, là, dans les deux minutes, qu'on puisse vraiment en parler et qu'on puisse s'organiser. Voilà. Donc, merci, soyez bénis et puis à la prochaine. Bye les amis qui sont en ligne, bye Josué, Clémence, bye Gary, à la prochaine.
Salut, bonne soirée.